On a commencé au chapitre 11 de l'Évangile de Marc. Et puis, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est les deux premières journées de ce qu'on appelle la semaine sainte, la semaine de la Passion. Et on est justement dans ce temps où on approche de Pâques. Et c'est certainement la semaine qui est la plus remplie dans la vie de Jésus, et aussi la plus difficile de sa vie. C'est une grosse semaine. Et le Seigneur passe, il va passer à travers toutes sortes de situations. Et plus la semaine avance, plus ça devient difficile et plus ça se corse. Et une des choses dont le texte nous montre ce matin, c'est que il y en a qui commencent à pu être capable de le sentir, parce qu'il parle avec clarté, en dénonçant le cœur, entre autres, de ces leaders religieux qui, malheureusement, conduisaient le peuple dans la mauvaise direction. Avant d'aller au message, juste faire une petite note, parce que certains d'entre vous avaient été inquiets lorsque, il y a deux semaines, quand j'ai mentionné que j'étais fatigué. j'ai même mentionné, je suis fatigué de l'Église. Ce que je voulais dire, c'est pas ceci. Je suis pas fatigué de vous. Je suis pas fatigué de être votre berger. Et je suis pas fatigué de vous conduire au bon berger et de prendre du temps, comme je fais à chaque semaine, pour rencontrer des personnes qui veulent cheminer avec le Seigneur et prendre du temps pour vous écouter et vous conduire dans la prière au Seigneur. Je suis vraiment pas fatigué de ça. Et je suis pas fatigué du tout d'apporter la parole de Dieu. S'il y a deux choses qui me créent beaucoup, beaucoup de joie et de passion, c'est de prendre du temps avec vous pour vous écouter, vous aider et vous conduire à Jésus, de le voir, lui, agir dans vos vies. Et prendre du temps, comme je fais ce matin, pour la parole de Dieu. Ce qui me fatigue avec l'Église, c'est un peu ce que je voyais dans le texte avec Jésus, où il regardait Jérusalem, il regardait le temple et ce qui se passait dans le temple, où il y avait des choses qui n'avaient pas d'affaires là. Et des fois, ça prend même trop de place. Alors, ce qui me fatigue, dans le fond, c'est des choses qui sont pas nécessaires et où je vois moins Jésus, ou même des fois je le vois pas du tout, dans certaines situations ou certains contextes. Et ça pèse lourd sur mon cœur. Ça me fatigue un peu plus. Je vais même vous dire ceci, mais je veux pas dire que c'est pas positif, mais dans ma situation à moi, j'ai fait pendant des années de l'administration. J'étais vraiment un fervent des choses bien organisées, bien structurées, et tout ça pour que ça fonctionne bien, des politiques de procédures et tout ça. Ceux qui sont sur le conseil avec moi savent de quoi je parle. Des horaires, des agencements de calendrier, tout ça pour être sûr que tout fonctionne bien, puis qu'il n'y ait pas de malentendus, puis que les choses roulent comme du beurre dans le poêle. Mais il y a une chose qui, ça, maintenant, me pèse lourd, et c'est de faire ces choses-là. Et je suis très heureux que le conseil pastoral ait accepté de me libérer dans ces choses-là pour que, malheureusement, c'est quelqu'un d'autre qui doit les faire. Mais je l'ai fait avec beaucoup de joie pendant bien des années. C'est juste que là, présentement, depuis un an et demi, deux ans, mon cœur est plus là. Mon cœur a plus de joie à faire ces choses-là. Et ça me pesait lourd. Ce que j'aime maintenant, c'est de paître le troupeau. J'aime beaucoup cela. Et j'aime beaucoup parler de Jésus. Et ça me fatigue pas. Donc, je suis pas fatigué. OK? Même si je m'en vais en vacances, là, dans pas grand temps. C'est juste qu'il faut que je les prenne, mes vacances, à un moment donné. Mais je veux juste vous rassurer quand même. Continuez à prier pour moi, comme moi je prie pour vous. Et ça, c'est une part que, naturellement, ça ne devrait pas nous être enlevé à chacun d'entre nous. Alors, le chapitre 11 débute la semaine sainte. Les 19 premiers versets couvrent les événements du dimanche et du lundi. OK? La journée du dimanche a été consacrée à son entrée triomphale, l'entrée triomphale de Jésus dans les rues de Jérusalem, ville sur laquelle Jésus a pleuré, sachant qu'elle n'a pas reconnu et accueilli son Messie. Et par conséquent, elle va devoir faire face aux terribles conséquences qui s'en viennent à cause de son rejet. Ensuite, le lundi matin, Jésus avait passé la nuit à Béthanie, retourne à Jérusalem parce qu'il avait une idée précise en tête. Il y avait une affaire à terminer. Et cette affaire-là à régler, c'était qu'il avait inspecté le temple la veille, mais étant donné l'heure tardive, il avait dit, « Je vais revenir demain. » Et c'est la chose qu'il fait. Pendant le voyage, par contre, il a maudit un figuier parce que le figuier était trompeur. Et ce figuier-là est justement l'image de la condition spirituelle trompeuse de la nation d'Israël. Et là, il va droit au temple ensuite, et là, il fait un grand ménage. Et là, Jésus, comme on pourrait dire, a perdu son calme, et là, il a vraiment créé toute une scène dans le temple. Et en passant, c'était la deuxième fois qu'il faisait ça. Il l'a fait une première fois au début de son ministère, dans Jean, et il le fait ici une deuxième fois. Et ce qui va causer naturellement, encore là, une réaction de la part des leaders. Ce qu'il veut faire par ça, c'est rétablir la vocation première du temple. Il dit clairement que le temple est une maison de prière pour toutes les nations, mentionnant que ce n'est pas réservé seulement aux Juifs. Même Jean rapporte l'incident où Jésus a expliqué aux Grecs, donc aux non-Juifs, qui désirait le voir, que le but de sa venue était justement de mourir sur la croix, de manière à ce que eux aussi puissent avoir accès à Dieu. Et probablement que de nettoyer le temple a été une illustration pour Jésus, pour montrer que le temple n'était pas juste réservé aux Juifs, mais il était vraiment là aussi même pour toutes les nations. Et même les non-Juifs étaient les bienvenus pour venir prier dans le temple, dans un endroit paisible. Mais malheureusement, à cause de tous ces marchands qui étaient là, c'était devenu une caserne de voleurs. Donc, le mardi matin, Jésus revient encore une fois à Jérusalem, de Béthanie. C'est ce qu'on va voir ce matin. Ce sera une autre journée très bien remplie. En route, les disciples remarquent le figuier séché qu'il avait fait préalablement la journée d'avant. Et Jésus en profitera pour leur enseigner une leçon très utile sur un mariage à trois. Ouais, ça existe ça. Un mariage à trois. Un beau mariage à trois. Croyez-vous à ça, vous autres? Ça existe un mariage à trois? Ça serait quoi, selon vous? Ça croit quoi? Ah, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Non, c'est pas ça? Dieu le Père puis le couple. Ah, OK, l'homme, la femme puis Dieu le Père. OK. Mais c'est pas ça ici que Jésus va parler. Ce n'est pas de ce mariage à trois-là. Je savais que vous répondriez ça. Mais ici, il y a un autre mariage à trois. Et on va prendre le temps de le regarder. C'est vraiment intéressant de voir comment Jésus développe, en regard du figuier séché, qui est une illustration de la condition spirituelle d'Israël, qui, dans un sens, devrait porter du fruit, mais n'en porte pas, a l'apparence de piété, mais n'a pas la réalité de la vie intérieure, de la vie spirituelle qui devrait être là. Autrement dit, ils n'ont pas cette communion avec Dieu qu'il devrait y avoir. Il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Et là, rendu à Jérusalem, Jésus va se diriger à nouveau vers le temple, où il va enseigner ouvertement et il va répondre aux leaders religieux qui questionnent son autorité. Sur quelle base dis-tu et fais-tu ce que tu fais? Et là, Jésus, naturellement, va s'intéresser à leurs questions, mais il est Jésus et il sait comment répondre. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur donner une parabole aussi dans le but de dévoiler les vrais motifs de leur cœur. Parce que vous vous souvenez, c'est des leaders religieux Ils sont supposés d'avoir la crédibilité du peuple. Ils sont supposés d'être des gens qui sont là pour conduire le peuple dans la vérité, vers Dieu, dans les notions et la relation avec Dieu. C'est eux qui en ont reçu la responsabilité. Mais Jésus va montrer que, en fait, vous avez des motifs et vos motifs ne sont pas en harmonie avec ce que Dieu vous a donné comme responsabilité. Et là, Jésus ne tourne pas autour du pot. Cette fois-ci, la parabole, elle est très claire et ils la comprennent. Parce que c'est arrivé souvent que même ses disciples ne comprenaient pas ces paraboles. Puis là, Jésus expliquait aux disciples en particulier ce qu'il voulait dire par les paraboles. Mais ici, ils la comprennent, la parabole. Elle est claire pour eux autres, la parabole. Et ils savent aussi qu'elle s'adresse à eux, la parabole. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Et ça, ben, c'est pas très bon pour la carrière messianique de Jésus. Hein? C'était pas une réponse qu'on dit qui était « politically correct ». Alors là, Jésus, il sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est la dernière semaine, la semaine sainte. Et on est rendu ici à mardi. On va prier ensemble avant de lire le texte. Seigneur Jésus, merci de ce que ta parole, elle est tellement fraîche, elle est tellement saine. Tu es le vrai Dieu, le seul sauveur et le seul qui peut rencontrer nos cœurs et complètement transformer notre vie. Parce que tu es vrai, Seigneur Jésus. Parce que c'est pas juste un discours, c'est pas juste un exemple que tu as donné. C'est que, Seigneur, toi, tu es venu nous apporter ce que nos cœurs avaient besoin pour régler notre situation par rapport à notre relation avec Dieu. Et en même temps, Seigneur, rencontrer nos cœurs avec tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur pour les libérer, les nettoyer et nous rendre libres, libres de vivre cette vie nouvelle et cette vie abondante que tu avais promis, que chacune de tes brebis, chacun de ceux et celles qui se tournent vers toi puisse goûter et avoir. Seigneur, merci de nous donner cette parole. Merci de ce qu'on peut encore aujourd'hui la lire et chercher ta face à travers elle. Que ton Saint-Esprit ce matin libère nos cœurs, illumine les yeux de notre cœur. Que ce ne soit pas juste de la connaissance qui vient caresser notre esprit, mais que ton esprit puisse utiliser la vérité pour l'emmener à nos cœurs et que nos cœurs puissent s'ouvrir à toi, Seigneur, et que nos vies en soient affectées à cause de cela. Et si, Seigneur, il y a quelqu'un qui est ici ce matin qui ne te connaît pas ou qui lutte, qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de questions, pas de réponses, est-ce que, Seigneur, dans ta bonté, tu pourrais mettre ta main sur ce cœur ce matin, aider à comprendre, à ouvrir son cœur pour que son cœur puisse recevoir de toi ce que tu veux lui donner ce matin. Et que toute la gloire, Seigneur Jésus, te revienne. Merci d'être le bon berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Merci, Seigneur Jésus, d'être ici ce matin avec nous. En ton nom, amen. Alors voici le texte biblique, c'est dans Marc chapitre 11. C'est à partir du verset 20, et ça va jusqu'au chapitre 12, verset 12. Donc, c'est une assez bonne portion, et je vais me concentrer particulièrement ce matin sur la première portion, qui est les versets 20 à 26. Alors ici, dans ces versets 20 à 26, c'est ici que Jésus nous parle d'un mariage à trois. Et je vais vous demander un peu plus tard, c'est quoi les trois éléments qui doivent se rencontrer et être ensemble pour que ça puisse fonctionner comme le Seigneur le veut. Alors, voici le verset 20. Le matin, en parlant ici du mardi, alors on est rendu au troisième jour de la semaine sainte. Le mardi matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Et là, Jésus répond, une drôle de réponse. Ça ne semble pas être tellement lié ou logique avec le fait que le figuier est séché. Mais Jésus dit, prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est une réponse un peu particulière par rapport au figuier qui est séché. C'est quoi le rapport entre le figuier qui est séché, qui représente la nation d'Israël, la condition spirituelle, et là, l'instruction que Jésus est en train de donner à ses disciples? Ayez foi en Dieu. Puis là, si vous demandez de quoi, vous avez foi en Dieu, il va vous le donner. Puis là, ben, si, quand vous allez pour prier, vous vous rappelez que là, vous avez quelque chose contre quelqu'un, bien, le pardonnez. C'est quoi le rapport? En passant, c'est quoi le mariage à trois?
Prière, foi et pardon.
Je dirais plutôt, foi, prière et pardon. Ah! Non, Jésus parle de la foi en premier, ensuite il parle de la prière, puis après ça, il parle du pardon. Mais prière, foi et pardon. Pardon, foi et prière. Peu importe l'ordre. Mais les trois, Jésus, ici, samedi, font un tout. C'est Jésus ici qui est en train d'emmener ces éléments-là par rapport à la question du figuier qui est séché. Pourquoi emmener ça dans le contexte du figuier qui est séché? Vous posez-vous la question ou c'est juste moi qui s'est posé la question? OK. Alors, ce que Jésus veut profiter, c'est qu'il veut maintenant les conduire là où c'est essentiel. OK? Il veut pas que l'attention soit sur le figuier qui est séché. C'est pas ça l'important, là. Tu sais, nous autres, des fois, on se préoccupe des détails. Puis là, on essaye de comprendre les détails. Jésus, lui, nous amène à base, au cœur de ce qui est vraiment essentiel, de ce qui vraiment fait la différence dans chacune de nos vies. Ce qui n'a pas fait la différence dans Israël, c'est justement qu'Israël n'avait pas la foi. Et lorsqu'elle priait, elle ne priait pas avec foi. Et il y avait beaucoup de rancune et d'amertume parmi le peuple d'Israël. Je vais continuer et je vais revenir, OK? Là, c'est juste un petit... des petits hors d'œuvre. Je vais continuer tantôt. Je voudrais quand même lire la portion que j'avais à couvrir ce matin, même si je vais me concentrer sur les versets 20 à 26. Ensuite, là, c'est l'autorité de Jésus qui est contestée dans les versets 27 à 33 du chapitre 11. Alors, on lit, « Ils se rendirent à nouveau à Jérusalem, c'est la même journée, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, donc il est dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui, les leaders religieux, et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné l'autorité pour le faire? » Maintenant, eux font pas référence au figuier, là, parce que ça s'est passé entre Jésus et ses disciples. Eux font référence au temple qui a nettoyé, puis qui empêchait les gens de circuler avec quoi que ce soit dans le temple. Lui, ce qu'il voulait, c'est que le temple soit dédié à la prière, puis à la prière pour toutes les nations. Alors, par quelle autorité fais-tu cela? Et qui te l'a donné, cette autorité-là, pour le faire? Verset 29, Jésus leur répondit, « Je vous poserai une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » Hein, c'est le fun, hein, Jésus? Moi, je trouve que ça y est arrivé souvent de répondre en posant une question. « Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Facile. Pas dur à répondre comme question. Ils avaient la réponse. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui? » Ah, il va nous pogner.
Et si nous répondons des hommes, encore là, on va se faire avoir, parce que là, les gens y croient que Jean-Baptiste avait vraiment un ministère qui venait de Dieu. Donc, il craignait le peuple, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Alors là, on n'est pas fou, on ne répondra pas. Alors, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Jésus leur dit, « Ah ben moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. » Il ne dit pas, « Je ne le sais pas. » Hein? Mais il dit, « Vous voulez jouer cette game-là? Ben vous voulez avoir la réponse? Je ne vous la donne pas. » Peureux! Gang de peureux pissous, hein? Vous avez peur. Et vous n'aurez pas la réponse. Ensuite, on va au chapitre 12, versets 1 à 12. Et là, Jésus va en rajouter un petit peu. Il ne veut pas les laisser comme ça, les leaders religieux. Donc, c'est là qu'il vient et qu'il va donner cette parabole. Et cette parabole va clairement pointer la culpabilité de ces leaders-là. Donc, une des raisons principales pourquoi le peuple était dans cette condition spirituelle, pour Jésus, il sait que vous avez joué un rôle dans cela. Et le Seigneur a dit, hein, à qui on va donner beaucoup, on va demander plus. Et vous savez, dans un sens, c'est une très grande responsabilité que d'être un berger, un conducteur, un enseignant, un responsable d'un groupe maison. Parce que si je prends du temps pour faire plein d'autres choses que de conduire les gens au Seigneur, si par ma façon d'enseigner, je fais plus de mal que de bien, parce que je ne représente pas Dieu tel qu'il est, ça c'est dommage, c'est triste. Et certains d'entre vous avez été dans des églises évangéliques où malheureusement, vous n'avez pas été conduit au Seigneur, où vous avez eu à avoir une perception de Dieu qui est fausse. Et ça a eu beaucoup de dommages dans vos cœurs. Et pour certains d'entre vous, ça vous emmène même à avoir de la difficulté à avoir une relation avec le Seigneur, parce que vous pensez que vous n'êtes pas bon. Vous êtes coupable. Vous n'en faites pas assez. Si tu en ferais plus, est-ce qu'un bon chrétien fait juste ça? Tu lis pas assez ta Bible? Tu n'évangélises pas assez? Pour être bien honnête avec vous, j'ai peut-être eu ce modèle-là dans ma vie pendant trop longtemps, où la vie chrétienne, c'est en fonction de ce qu'on fait pour Dieu. Et plus on en fait, plus on est fort. Et plus on est fort, plus Dieu nous aime. Plus on est un modèle. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire par là. Si, par exemple, vous venez à moi, puis vous cherchez à savoir qu'est-ce que vous devez faire comme ministère. Moi, je connais l'Église, là. Je connais les besoins. OK? Je sais où il y a des besoins dans les ministères. Puis là, si je passe, mettons, une demi-heure avec vous, puis pendant la demi-heure, ce que j'essaie de vous faire, c'est que j'essaie de vous convaincre de l'endroit où vous devriez servir dans l'Église. Parce que moi, je sais c'est où sont les besoins. Puis là, mon intérêt, c'est que vous soyez heureux. C'est que vous serviez le Seigneur. Mais c'est aussi
et peut-être un peu surtout, qu'il y ait quelqu'un à cet endroit-là, parce que ça crie depuis plusieurs semaines. Et là, ça serait tellement le fun que vous compreniez avec moi que le besoin est là. Et vous, naturellement, vous voulez servir le Seigneur. Vous avez un cœur tendre, un cœur désireux de faire ce qui est bien, de faire la volonté de Dieu. Et je suis votre pasteur. Donc, vous me respectez. Vous savez que je vous aime. Puis là, vous vous dites, « OK, pasteur, je vais aller là. » Qu'est-ce qu'il y a qui manque? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? C'est ça qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas conduit à dire, « Regarde, le Seigneur, il sait où tu veux. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a donné des dons. Est-ce qu'on peut en parler au Seigneur ensemble? » Là, j'aimerais ça te montrer comment peut-être tu peux chercher la direction du Seigneur. Le Seigneur va te le montrer. Parce que lui, il sait où tu peux servir dans son corps. Là, je ne suis pas préoccupé par une organisation qui a des tâches puis des besoins à remplir. Je suis préoccupé par une église dont les membres sont des pierres vivantes. Et la tête, c'est Jésus. Et là, je vous conduis à écouter la voix de Jésus. C'est ça la différence pour moi maintenant. Comprenez? Et c'est comme ça qu'on devrait regarder l'Église et ce que le Seigneur veut nous emmener à faire dans l'Église. Maintenant, voici ce que Jésus dit. Dans le chapitre 12, verset 1 à 12, « Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Ils le prirent, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, « Wow! Ils vont écouter mon fils, ils vont le respecter. » Mais ces vignerons se dirent entre eux, « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres qui vont pouvoir prendre soin de la vigne. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Ils ont jeté la mauvaise pierre. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est une merveille à nos yeux. Et là, ça dit au verset 12, « Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. » Encore là, « Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. » Et on sait ce qu'ils s'en allèrent faire. Ils s'en allèrent pour trouver le moyen, le temps, le timing et tout ça. Quand est-ce qu'on va, s'en défaire? Maintenant, c'est quoi le mariage parfait? La foi, la prière et le pardon. Maintenant, ce que je crois ici, c'est que Jésus est en train justement de mettre l'emphase sur le lien étroit qui existe entre ces trois choses, qu'on pourrait appeler des vertus chrétiennes, des choses qu'on va encourager, hein? La foi, la prière et le pardon. On en parle, c'est régulier, la parole de Dieu en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on voit comment ils font un bon ménage ensemble? Pourquoi Jésus les emmène ensemble? Encore là, c'est un peu particulier, la manière qu'ils emmènent ensemble. La foi et la prière, on peut voir plus facilement le lien entre les deux. Mais le pardon, ça, c'est une autre étape. Et regardez, je vais essayer de vous l'expliquer un peu en réfléchissant là-dessus, comment je pourrais vous communiquer ça. Voici à quoi ça ressemble. La foi a besoin d'un véhicule pour s'exprimer.
Alors, de quel véhicule s'agit-il? Voilà, c'est la prière. Alors, c'est Jésus qui le mentionne, parce qu'il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Donc là, il lit ensemble la foi et la prière. Et vraiment, la prière, c'est le véhicule par lequel la foi va s'exprimer. Parce que c'est dans ce contexte-là que Jésus dit, « Si vous le faites, en croyant que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. » Donc, la foi, ici, qui s'exprime par la prière, va prendre sa force à travers la prière et à travers la foi. Parce que Jésus le lit ensemble. Maintenant, la prière, elle a besoin d'un carburant pour alimenter le moteur du véhicule. Alors, le véhicule, c'est la prière. La foi, c'est le véhicule, non? Non, non. La prière, c'est le véhicule de la foi, OK? Mais ici, la prière, elle a besoin d'un carburant. Jésus mentionne que ce carburant, c'est la foi. Oui, oui. La prière, c'est le véhicule. Et la foi va être le carburant de la prière. Autrement dit, si je prie et que je n'ai pas la foi, j'utilise le véhicule de la prière par lequel la foi s'exerce, mais si je n'ai pas la foi, il n'y a pas de gaz. Comprenez-vous? Ma prière, elle n'a pas de gaz. C'est ça que ça veut dire. C'est Jésus qui dit, là. Parce qu'il dit, vous allez obtenir ce que vous allez demander dans la prière si vous avez le gaz, le carburant qui est la foi. Donc, le véhicule ne bougera pas si je n'ai pas la foi. Parce que la foi, c'est le carburant de la prière. Ça va-tu? Autrement dit, je peux prier, je peux m'asseoir dans le véhicule, je peux essayer de jouer avec le volume, mettre le radio, tout ça, mais si je n'ai pas la foi, ma prière, elle va manquer de gaz. C'est ça que j'étais en train de dire. Ma prière va manquer de gaz. Ma prière, elle n'aura pas de gaz. Donc, il n'y a rien qui va bouger. Ça n'avancera pas. Il n'y a rien qui va se passer. C'est pour ça que ceux qui prient, puis même, on peut dire, parce qu'il y a toutes sortes de monde qui prie, là, mais la prière qui va être efficace, c'est la prière qui va être faite par la foi. Et ça, c'est clair, il y a beaucoup d'autres textes dans les Écritures qui le mentionnent. Et Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, alors là, il donne ici comme une hyperbole qu'on appelle, pas une parabole, mais une hyperbole pour montrer la grandeur que la foi peut jouer. Alors, s'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Okay? Alors, pour mettre l'emphase, justement, sur ce qu'il dit après, tout ce que vous allez demander, en priant, croyez et vous allez l'obtenir. Wow! Hein? La foi. Mais ça continue. Et là, c'est là que je viens avec le point que je veux faire ressortir aussi à travers ça, c'est que pour que le véhicule, qui est la prière, puisse se mettre en mouvement, et permettre au moteur de le propulser en étant alimenté par son carburant, qui est la foi, il doit être libre de tout obstacle ou de tout frein qui le retient immobile. Autrement dit, c'est possible que quelque chose qui vienne faire obstacle à ma prière et à ma foi. Et là, c'est pour ça que j'ai de la difficulté à la fois à prier, ou à la fois à prier avec foi. Comprenez-vous? Parce qu'il y a un obstacle. C'est comme si le break à bras y est mis. Et c'est quoi ça, cet obstacle-là, ce frein-là? Jésus dit, c'est l'amertume. C'est l'absence de pardon dans ton cœur. C'est curieux qu'il amène ça dans le portrait ici de la foi puis de la prière. Qu'il vienne parler comme ça, boum, que si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, bien votre Père Céleste non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Autrement dit, l'amertume dans un cœur, ça l'apostrophie ou ça le pétrifie ou ça le atrophie toutes les filles, hein? Ça le meurtrit, ça le tout ça. Autrement dit, l'amertume dans un cœur vient tuer le cœur et sa possibilité d'exercer la foi. Parce que ici, naturellement, ce que Jésus est en train de dire, c'est pas que la personne qui a de l'amertume dans son cœur peut pas être sauvée. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que, un peu comme dans Notre Père, la relation avec Dieu va en être affectée. Et là, ma relation avec Dieu va être comme bloquée. Et je vous le dis là, si mon cœur n'est pas libre d'amertume, je ne peux pas saisir par la foi ce que Dieu a à m'offrir. Mon cœur est fermé. Un cœur qui est amer est un cœur qui est verrouillé, qui est fermé. Et c'est ce que Jésus est en train de mettre l'emphase dessus. Alors, c'est pour ça qu'il dit, lorsque vous êtes debout en prière, donc en train d'utiliser le véhicule, qui est la prière, donc, ma prière a besoin de carburant, qui est la foi, mais là, Jésus dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, pardonne aussi vos fautes. Et moi, je suis convaincu que pour Jésus, c'était clair que si vous priez et que vous avez de l'amertume dans votre cœur, vous ne serez pas capable d'avoir le carburant que votre prière a besoin pour que ça puisse aller dans la direction que Dieu veut que ça aille. C'est mon cœur que Jésus veut interagir avec. Vous comprenez? Il ne veut pas interagir avec ma vie extérieure si je prie d'une certaine manière ou combien de temps je prie, puis tatatata, même s'il parle de debout, et ainsi de suite. Mais ce que Jésus met l'emphase dessus, c'est qu'il dit, s'il y a quelque chose dans ton cœur, qu'il y a de l'amertume dans ton cœur contre quelqu'un, règle ça. Règle ça parce que ta prière va manquer de gaz. Je crois sincèrement que c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Une vie de prière avec un cœur amer m'amène à manquer de gaz. Vous savez, le pire ennemi de la foi, de la prière et du pardon, c'est un cœur mal en point. Un cœur mal en point. Le pire ennemi du pardon, c'est l'absence d'une relation cœur à cœur avec Dieu. Le pire ennemi de la prière, c'est le doute ou l'incrédulité. Et le pire ennemi de la foi, c'est l'amertume ou la rancune dans le cœur. C'est pour ça que le pire ennemi de la foi, de la prière et du pardon, c'est un cœur mal en point. Et c'est pour ça que c'est mon cœur que le Seigneur veut interagir avec. J'aimerais vous raconter l'histoire vraie. Je vais le faire brièvement. De Brooks et Leslie Douglas. Parce que c'est vraiment une histoire qui vient mettre en relief autant la foi, la prière que le pardon. Alors, leur histoire est connue depuis 2010, avec la sortie d'un film qui s'appelle « Heaven's Rain », alors comme la pluie du ciel. C'est Brooks lui-même qui l'a écrit et qui l'a coproduit, et dans lequel il a aussi tenu le rôle de son père. Sa sœur Leslie a aussi interprété une chanson qui est très touchante dans le film. Maintenant, ce qui rend ce film unique, c'est qu'il raconte l'histoire vraie et tragique qu'ils ont vécue lorsqu'ils étaient jeunes. Lui avait 16 ans et sa sœur avait 12 ans. Ils ont perdu leurs parents dans des circonstances vraiment horribles et ils ont eu à subir d'autres traumatismes aux mains du système judiciaire pendant plusieurs années qui ne protégeait pas les victimes à l'époque. Leurs parents, Richard et Marilyn, ont été des missionnaires au Brésil dans les années 60. Dans les années 70, son père était devenu le pasteur de l'église baptiste d'Oklahoma, aux États-Unis. Une église florissante à l'époque de 3000 membres. Les Douglas vivaient une vie paisible sur une petite ferme en banlieue de la ville Dokarche, qui est en Oklahoma. Monsieur Douglas est un pasteur très impliqué dans sa communauté. En plus d'être le pasteur principal d'une grande église, il était aumônier à la prison d'Oklahoma et animateur d'une émission de télévision quotidienne où il enseignait la parole de Dieu. Une des valeurs à laquelle cette famille croyait beaucoup était l'entraide communautaire et l'hospitalité. Le 15 octobre 1979, un lundi, le lundi de congé, journée sainte pour les pasteurs, la famille était à la maison en train de se préparer pour le souper. Lorsqu'un homme vint cogner à la porte pour demander s'il pouvait passer un coup de téléphone, prétextant qu'il cherchait à trouver l'endroit d'un voisin chez qui il désirait aller. Le jeune Brooks le laissa entrer sans se rendre compte des intentions maléfiques que cet homme et son complice avaient en tête. Une fois entrés, les deux hommes ont sorti leurs armes à feu et menacé les membres de la famille en leur demandant de leur donner leur argent. Ils avaient en tout 43 $ et deux alliances de mariage. Ils ont ensuite attaché le père, la mère et le jeune Brooks, puis ils ont amené la jeune Leslie de 12 ans dans une chambre à l'étage et l'ont violée à tour de rôle, au-dessus des autres membres de la famille qui l'entendaient crier. Mais ne pouvaient pas entendre, ne pouvaient pas rien faire d'autre. Imaginez l'horreur. Une fois qu'ils ont eu fini, ils l'ont attaché et jeté sur le plancher à côté des membres de la famille. Ils se sont alors dirigés vers la cuisine où ils ont mangé le repas que la mère avait préparé pour sa famille juste quelques minutes auparavant, ce qui était le repas préféré de Brooks. Pendant 4 heures, ils ont ainsi terrorisé la famille. Puis l'un des deux malfaiteurs s'est levé et les a tous tirés dans le dos, à bout portant, à 2 reprises, les laissant comme morts, gisant sur le plancher dans une mare de sang. Brooks a tenté avec ses dents de délier les mains de son père, mais celui-ci lui dit de s'occuper plutôt de sa mère. Après un certain temps, il a réussi à libérer sa mère, mais il était trop tard, elle était déjà morte. Pour sa part, Leslie, quoique sérieusement blessée, a réussi à se libérer elle-même de ses liens pour aller dans la cuisine et y prendre un couteau afin de libérer son frère qui était encore vivant. Malheureusement, le père n'avait pas eu autant de chance. Ils décédèrent tous les deux de leurs blessures. Les autorités policières les ont retrouvés côte à côte. La tête de M. Douglas était sur l'épaule de son épouse. Les deux truands finirent par être arrêtés quelques semaines plus tard et condamnés en justice pour leur crime en 1980. Du moins en partie. Celui qui avait pesé sur la gâchette s'en est tiré avec la prison à vie, ayant eu droit à un deuxième procès en 1986, prétextant qu'il avait été mal représenté lors du premier procès à cause de sa condition psychiatrique. Tandis que celui qui avait été complice du meurtre des parents, de la tentative de meurtre des enfants et du viol de Leslie a été condamné à la peine de mort. Cette injustice aux yeux de Brooks l'a conduit à étudier en droit en 1988, il faisait ça même pendant la nuit, et à vouloir se présenter comme sénateur. Il a été élu en 1990 à l'âge de 27 ans, faisant de lui le plus jeune sénateur d'Oklahoma. En 1992, il a réussi à faire passer une nouvelle loi pour garantir les droits des victimes de crimes. Leslie, de son côté, a poursuivi des études aussi postsecondaires et il est devenu professeur au primaire. Malheureusement, la vie n'a pas été rose pour Brooks et sa sœur Leslie. Ils ont été placés en foyer d'accueil chez des membres de la parenté. Leslie eut une adolescence assez normale, sauf pour son malaise qu'elle ressentait dans ses relations avec les garçons et les fréquents cauchemars où elle voyait un intrus venir à sa porte de chambre. En ce qui concerne Brooks, il a eu une adolescence troublée par l'insomnie, la dépression et l'abus d'alcool. Après avoir vécu des débuts difficiles à l'université à cause de l'alcool, il étudiait même à ce moment-là pour aller dans le pastorat. Il a fini par réussir ses études en administration en 1985. Pour lui, l'année suivante, 1986, fut la pire année de sa vie. C'est l'année où Ake eut droit à un second procès et où il reçut la peine de prison à vie au lieu de la peine capitale. C'est là qu'il s'est rendu compte que le système judiciaire accordait plus de droits aux criminels qu'aux victimes et que les victimes étaient de nouveau agressées par le système parce qu'il fallait qu'ils reviennent en cours, il fallait qu'ils donnent encore leur témoignage, il fallait qu'ils passent à travers toute l'horreur de ce qui s'était passé. Il a décidé alors de poursuivre des études en droit en 1988 et de se présenter comme sénateur en 1990. Puis en 1996, et en partie grâce à la nouvelle loi qu'il avait fait adopter au Sénat en 1992, lui et sa sœur assistèrent à l'exécution par injection mortelle de l'un des deux criminels responsables de la mort de leurs parents. Pour Leslie, être témoin en 1996 de l'exécution de l'un des meurtriers de ses parents et de celui qui l'avait violé, fut une expérience décevante. Premièrement, cet homme, qui s'appelle Hatch, a toujours nié l'avoir violé et n'a jamais démontré aucun regret de ce qu'il avait fait à cette famille, même dans les derniers instants avant de mourir. Cet homme avait même grandi dans une famille mormone, mais avait perdu sa mère à l'âge de 11 ans et ça avait emmené toutes sortes de problèmes dans sa vie par la suite. Maintenant, voici son témoignage de ce qu'elle a dit de cette expérience. « Nous étions assis là devant cette salle d'exécution et je me disais, c'est pas croyable. C'est déjà fini. Nous avons attendu 17 ans pour le voir s'endormir tranquillement en paix, exactement comme la plupart du monde souhaiterait un jour mourir. Pourtant, nous, ce jour-là, où notre mère était en train de s'étouffer, de vomir son sang, nous l'avons vu souffrir terriblement sans pouvoir rien faire. Et lui, le plus qu'il a souffert aujourd'hui, c'est la sensation d'une petite aiguille entrant dans son bras. Si au moins il avait pu souffrir 10% de ce que nous avons souffert, je me serais senti mieux. Non, c'était vraiment trop facile. » Maintenant, pour Brooks, ce fut un peu différent. Parce qu'en 1995, un an avant l'exécution de Hatch, il a pu visiter la prison à titre de sénateur où était l'autre meurtrier qui s'appelle Ake, celui qui avait pesé en fait sur la gâchette de l'arme et qui avait tué ses parents et qui les avait blessés gravement. Même s'il avait appréhendé dans son cœur une rencontre non planifiée et non désirée avec cet homme, il a soudainement eu l'idée d'aller le rencontrer, ce qui fut arrangé avec les autorités du pénitencier et accepté par cet homme, Ake. En passant, Ake était devenu chrétien à ce moment-là. Brooks ne le savait pas. Selon Brooks, ce fut l'une des plus belles choses qui ne lui soit arrivée dans toute sa vie. Voici ce qu'il en dit. Ake était extrêmement désolé de ce qu'il avait fait et il a pleuré pendant presque toute notre rencontre. Tout comme lui, d'ailleurs. Puis, lorsque la rencontre tirait à sa fin, Brooks s'est levé et il a dit, sans trop comprendre pourquoi il allait pouvoir dire ce qu'il s'apprêtait à dire, « Je te pardonne pour le mal que tu as fait. » Il dit, « À ce moment-là, aussitôt que ces mots-là sont sortis de ma bouche, j'ai senti tout à coup comme si du poison sortait du bout de mes pieds. Ce fut l'une des plus grandes sensations physiques que j'ai jamais ressenties. Comme si quelqu'un avait enlevé une agrafe sous ma poitrine. J'ai senti comme si je pouvais respirer à nouveau pour la première fois en 15 ans. Et c'est un an plus tard qu'il a assisté à l'exécution de Hatch, l'autre criminel. Et là, il dit, « Quoique cette exécution m'aida à mettre les événements du passé derrière moi, ça n'avait rien de comparable par rapport au sentiment de liberté que j'ai ressenti lors de ma rencontre avec Ake. » Après avoir pu pardonner et de pouvoir dire « Je renonce à l'amertume et la haine », être capable de laisser aller et de pouvoir dire « Dorénavant, ce n'est plus mon combat. » Plus qu'une simple décision, le pardon pour Brooks était le mieux personnifié par cette marche à travers la vallée de l'ombre de la mort et de pouvoir en sortir de l'autre côté encore mieux préparé à vivre la vie d'une personne restaurée, racheté par la puissance de Jésus-Christ. Maintenant, ce qui est intéressant et ce qui ressort dans le film, c'est que son père, le meurtre est arrivé le lundi, mais le dimanche de ce lundi-là, il avait prêché son dernier sermon et son message était sur l'importance du pardon. Dans le film, Brooks, qui joue le rôle de son père, prêche le message de son père sur le pardon. Donc, naturellement, c'est fait pour brièvement, mais voici un extrait de son message, donc les paroles mêmes de cet homme qui s'était fait tuer. Et c'est assez puissant. Il dit, « La joie de vivre est empoisonnée par l'amertume des rancunes du passé. Nous devons nous débarrasser du sang contaminé, puisque nous grandissons lorsque nous sortons les squelettes de notre placard et ouvrons la porte à la vie en pardonnant, en étant miséricordieux et en aimant les autres. Le jugement de Dieu est une chose précieuse. C'est presque impossible de rencontrer quelqu'un qui ne croit pas à la nécessité d'une certaine forme de jugement dans ce monde. L'importance que nous soyons tous imputables pour nos actions. Mais notre Dieu est aussi un Dieu de miséricorde, d'amour et qui pardonne. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il le fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dans Matthieu 5, versets 44 à 45. Et là, il continue en disant, « Mais même dans la littérature classique, Shakespeare a dit ceci, « La qualité de la miséricorde n'est pas contrainte. » Ce qui veut dire que le pardon ne peut pas être forcé. La miséricorde tombe sur la terre comme une pluie fine venant du ciel, d'où le titre du film « Heaven's Rain », la pluie du ciel. Ce qui veut dire que le pardon vient avec la grâce de Dieu. La miséricorde, qui est le pardon, bénit doublement. Elle bénit celui qui donne et elle bénit celui qui reçoit. Ce qui veut dire que lorsque nous pardonnons à quelqu'un, nous sommes nous-mêmes pardonnés et bénis. Lors d'une entrevue télévisée, on lui a demandé si sa foi avait été un facteur important pour l'aider à pardonner. Il a répondu ceci, que sans sa foi, il n'aurait jamais pu pardonner. Impossible. Et il y a tout un débat présentement à la radio, si vous entendez. Et pour certains, là, pardonner, c'est comme, dans un cas d'un meurtre, d'une chose comme ça, c'est impensable. Pourtant, pendant de nombreuses années, il a écouté son père prêcher. À l'aide d'une petite cassette audio, ce message sur l'importance du pardon. Ce qui le consolait pendant toute sa vie de jeune adulte et d'adulte était cette cassette d'entendre son père prêcher ce dernier message. De nombreuses fois, il a prié Dieu de lui donner la force et la grâce de pardonner. Et Dieu a répondu à sa prière et à sa foi en 1995. Sa vie depuis a pris une tournure pour le meilleur et le film « Heaven's Rain » est le double fruit ou la double bénédiction de ce pardon. Vous savez, on peut tous être pris, notre cœur peut tous être pris avec l'amertume. On peut avoir de l'amertume envers les autres, on peut avoir de l'amertume envers Dieu, et on peut avoir de l'amertume envers nous-mêmes. Et ce qui est important, vous savez, c'est d'apporter à Dieu nos cœurs, pour lui demander, « Seigneur, est-ce qu'il y a de l'amertume dans mon cœur? » Est-ce que tu peux libérer mon cœur de cette amertume pour que ma foi puisse s'exercer à travers la prière et que je puisse te voir à l'œuvre, autant dans ma vie que dans la vie des autres autour de moi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi tu connais nos cœurs ce matin. Tu connais, Seigneur, si on lutte avec de l'amertume dans nos cœurs. Et pourquoi, Seigneur, on pourrait lutter avec de l'amertume dans nos cœurs? Certains ont peut-être eu des circonstances extrêmement difficiles, des injustices qui ont pu arriver, des événements qui ont marqué leur vie. Et tu vois, Seigneur, comment que leur cœur
est blessé, meurtri, mal en point. Seigneur, est-ce que tu veux prendre soin de ces cœurs ce matin? Est-ce que ces gens peuvent venir à toi ce matin avec un cœur ouvert? Faire comme Brooks, qui s'est tourné vers toi et qui finalement a réussi à faire quelque chose qu'il n'aurait jamais été capable de faire. Mais ta grâce a envahi son cœur et il a pu prononcer ses paroles et être libéré comme si un poison sortait de sa vie. Ô Seigneur Jésus, est-ce que ce matin tu peux interagir avec nos cœurs et aider, Seigneur, ceux et celles qui sont ici ce matin et qui savent qu'il y a quelque chose dans leur cœur. Ils ont quelque chose contre quelqu'un. Ô Seigneur, est-ce que tu peux venir vers eux, ouvrir leur cœur et qu'ils puissent simplement te dire, Seigneur, prends mon cœur. Prends ce qu'il y a à l'intérieur. Prends ma souffrance. Prends, Seigneur, ce qui est dur dans ma vie présentement et que j'ai de la misère à te faire confiance à cause de ça. Parce que j'ai l'impression que tu m'as laissé tomber ou je comprends pas pourquoi tu aurais permis des circonstances aussi injustes et difficiles. Ô Seigneur Jésus, dans ta bonté, dans ta grâce, est-ce que tu pourrais leur aider à te donner ce gros morceau qui est dans leur cœur et qu'ils puissent laisser aller et accepter de le remettre entre tes mains et que ce soit plus leur combat à eux, mais que ce soit entre tes mains, que ce soit toi qui vas livrer le combat pour eux. Toi, tu vas t'occuper de ce qui s'est passé, peu importe qu'est-ce qui a pu arriver, et c'est toi, Seigneur, ils peuvent te faire confiance. Merci, Seigneur Jésus, de ce qu'on peut venir vers toi. Merci de ce que tu peux interagir avec nous. Libère nos cœurs, Seigneur Jésus, ce matin. Libère-nous pour que nos cœurs puissent respirer, que nos cœurs puissent vibrer à ta voix, ressentir ton amour et ta présence, que tu es là, Seigneur, pour chacun de nous, et tu veux prendre soin de nos vies. Merci, Seigneur Jésus, d'être là ce matin. Merci d'entendre nos prières. Et nous nous tournons vers toi, par la foi. Merci, Seigneur. Amen.